cours de théologie naturelle par le Père Marie-Dominique Philippe, le 13 juin 2001 à Saint-Jean-d'Arc.
Le jugement de sagesse par rapport à la personne humaine, c'est très important de bien comprendre comment on doit intégrer toute la recherche de la personne au plan métaphysique. On pourrait dire que la métaphysique transforme notre anthropologie en nous permettant d'avoir une vision ultime sur la personne humaine. Cette vision a deux moments. Premier moment, au terme de la métaphysique, on essaie de comprendre le pos, le comment de l'être spirituel. L'être spirituel, sa manière d'exister, c'est d'être une personne. Bon, ça, c'est le terme de toute la métaphysique. Vous voyez, c'est très important parce que la scolastique a laissé complètement tomber cette recherche de la personne. D'où la psychologie qui est née après s'est emparée de la question de la personne. Et la plupart du temps, on reste sur une vision ou logique, Boès. Et ça a joué un très grand rôle dans saint Thomas. Aristote n'a pas parlé de la personne. Boès en a parlé, mais d'une façon assez logique. Et saint Thomas s'est servi de Boès, il revient toujours sur Boès quand il parle de la personne. La définition de la personne. Une personne ne se définit pas. On essaie de préciser ces éléments, ces diverses déterminations. Et la scolastique n'a pas du tout regardé la personne. On a vu saint Thomas comme théologien de la nature et pas théologien de la personne. Alors que je crois que le propre de saint Thomas, c'est d'avoir vu le théologien comme la personne, parce que tout l'effort de Thomas d'Aquin, au point de vue théologie, s'est terminé sur un regard scientifique et de sagesse sur les personnes divines. Le dernier bout de la théologie, c'est la contemplation de la Trinité. Le Dieu, trois fois saint, trois personnes. Oui, c'est la sainteté est personnelle. Et c'est pour ça qu'au fond, on a si peu parlé de la sainteté. Et quand le pape, dans son exhortation Docin Altum, rappelle que c'est la sainteté qui est le chemin pastoral, c'est très nouveau. Hein. Ça a toujours été comme ça chez les pères de l'Église. C'est évident. Ça a toujours été comme ça. Mais dans notre monde d'aujourd'hui, c'est très nouveau. De voir que la pastorale doit toujours... Vous voyez, au fond, on voit surtout, aujourd'hui, on essaie de gérer un peu le bien acquis, et on n'a pas tellement ce souci de la sainteté qui est personnelle. La grâce est personnelle. Et elle nous donne le sens de la personne. Alors, de fait, la scolastique, la grande scolastique, a laissé tomber la personne. On n'a pas regardé ce côté de la personne. Alors, je crois que ce qui est capital aujourd'hui, pour ne pas se laisser séduire par la psychologie et tout juger dans la lumière psychologique, la psychologie est importante dans les cas de détresse, de maladie, de lutte trop grande. C'est une guérison. On voit les obstacles et on voit les nœuds psychologiques. Mais elle ne construit pas la personne, hein, parce qu'elle ne sait pas ce que c'est que l'intelligence et l'amour au plan métaphysique. Et je crois que du fait que on n'a pas développé la personne au niveau métaphysique, on a laissé toute la place à la psychologie. Le moyen de rattraper ça au point de vue profond et pour faire une théologie qui soit une théologie vivante et qui soit une théologie dans le sens où nous dit le Saint-Père, notre pastorale doit être une pastorale de la sainteté. Donc, personnelle. On s'occupe de la communauté, on s'occupe des groupes, mais en fonction de la personne. Et je ne peux pas dire que le noviciat soit saint. Non, il n'est pas saint. Il permet la sainteté, je crois. Il permet le développement de la sainteté. Mais une communauté n'est pas sainte. Les individus sont saints. Et si toutes les personnes de la communauté sont saintes, on dirait qu'il n'y a que des saints dans cette communauté. Mais vous voyez, c'est très important de bien distinguer où se situe la sainteté. Elle est personnelle. Et donc, le fait de creuser la personne au niveau métaphysique nous permet d'avoir un regard de sagesse sur la personne. Tant qu'on n'a pas découvert l'existence de Dieu, on découvre les 6 dimensions de la personne. Dès qu'on découvre l'existence de Dieu, on découvre une nouvelle dimension de la personne qui se traduit par l'adoration. L'adoration est une activité personnelle. Ce n'est pas une activité communautaire. La louange est communautaire, mais l'adoration est personnelle. Et je me souviens au début des charismatiques, je connaissais bien le fondateur, j'ai insisté énormément, parce qu'il était sur la louange, parce que c'était communautaire, leur rappeler l'exigence de l'adoration personnelle, notre sainteté personnelle. Je crois que ça, il faut bien le saisir. Donc, quand nous découvrons l'existence de Dieu, nous découvrons la 7e dimension de la personne. Oui, c'est pas pour rien qu'il y en a 7. Le chiffre 6, 6, 6. On connaît ce que c'est, hein, selon l'écriture. Il faut se poser la question. Répétition 3 fois. L'homme sans Dieu se croit tout puissant. Et il n'y a que lui. Alors ça fait 6, 6, 6. Il se regarde lui-même. Dès qu'il regarde Dieu, il y a la verticale. Et il y a l'adoration qui change tout. L'adoration religieuse. Un homme qui adore est un homme qui peut tendre vers la perfection. Mais s'il n'adore pas, il y a la septième dimension et très vite il déraille. Alors, dans une perspective de sagesse divine, première dimension, l'autonomie dans l'adoration. Nous sommes des êtres créés. Et l'être spirituel qui est en nous est créé. Il dépend radicalement de Dieu et il a une liberté. S'il n'avait pas d'autonomie, il n'aurait pas de liberté. C'est donc capital de voir comment, au point de vue adoration, au point de vue vital, nous reconnaissons notre totale dépendance à l'égard du Créateur. Et comment, en reconnaissant cette totale dépendance à l'égard du Créateur, nous découvrons le fondement de la liberté. Ce que je vous avais dit, Feuerbach, identifiant ou confondant vie et être, montre que si l'homme est libre, il doit être athée. Si l'homme affirme son autonomie, il ne peut pas adorer. Alors, il faut bien voir la distinction au point de vue profond entre être et vie en nous. Au point de vue être, nous sommes totalement dépendants de Dieu. Et au point de vue vie, nous avons l'âme qui est source d'autonomie en nous. Et source de notre liberté. Mais notre liberté n'est pas totale. Elle est limitée. Elle est limitée par la dimension même de notre être. Et c'est une vision de sagesse très importante parce que ça nous permet de bien voir l'erreur de Feuerbach. Et Feuerbach a été très important pour que le philosophe ait l'audace d'affirmer la négation de Dieu. Seconde dimension de la personne est un être spirituel, créé par Dieu, dépendant, et pourtant être spirituel, par sa vie intellectuelle. Et c'est cela qui lui donne ce fondement pour la liberté. Je suis libre dans la mesure où mon intelligence se développe et découvre par elle-même la vérité. C'est pour ça qu'on dit, l'Écriture nous dit, et je prends au point de vue philosophique, la vérité vous libérera. Prenez tout simplement le petit exemple. Hein. Quand vous ne faites pas beaucoup de politique parce que vous êtes religieux, et qu'il s'agit de voter comme un citoyen de son pays. Donc, la variété de ceux qui se présentent aux élections, on est incapable de comprendre. Alors, on demande conseil à quelqu'un de compétent. Si je demande conseil, donc, hein, c'est parce que je suis incapable de faire moi-même ce choix libre. je suis limité dans mon choix. Et ceci, ça se voit constamment dans notre vie. Hein. Réfléchissez aux limites de votre liberté. Ça ne supprime pas votre liberté. Ça la conditionne. Les limites de votre liberté vous conditionnent. Si vous êtes un être intelligent, vous savez toujours vous en tirer. Parce que les limites ne déterminent pas. Elles conditionnent. Elles conditionnent ma liberté. En fonction de mon incapacité, ne faisant pas de politique, je suis incapable de connaître si tel individu est... La liberté consiste à savoir s'effacer dans un régime démocratique. Vous savez que le régime démocratique exige des citoyens très intelligents. Et quand la démocratie a des citoyens qui ne sont plus intelligents, alors là, c'est vraiment la fin de la politique. On en est là, n'est-ce pas, au fond, en France. Il n'y a plus de politique, puisque la politique, normalement, c'est de regarder le bien de l'État. On regarde le bien des partis. Donc, dans une vision de sagesse, je vois que je suis un être intelligent. Je le sais. C'est pas la vision de sagesse qui me donne ça, mais je vois que la participation ultime à l'être divin, au mystère de Dieu, c'est d'être un être intelligent. Mon intelligence est quelque chose de sacré. On l'oublie trop, hein. Mon intelligence est sacrée. C'est-à-dire, je ne peux pas faire de mon intelligence n'importe quoi. Je n'ai pas le droit d'assombrir mon intelligence. Et je l'assombris quand, justement, je fais une recherche trop grande, trop diverse, et que je n'ai plus une ligne de conduite. Et je prends un exemple, hein. Un exemple vécu pour que vous compreniez. On vous a porté au Saulgeoire une pile de livres comme ça dont on veut faire la recension. Alors, 30 livres. Ces livres, chacun d'eux, représentaient pour celui qui l'avait écrit un effort d'un an, deux ans, trois ans, quatre ans, toute sa vie peut-être. Et vous deviez le lire en deux jours, l'assimiler et porter un jugement. Vous voyez, vous faussez l'intelligence. Comment voulez-vous assimiler en deux jours ce que quelqu'un a pondu pendant trois ans? C'est impossible, quoi. Il faut voir les choses comme elles sont. Et vous deviez faire ça. Vous avez une pile comme ça. En plus du travail habituel. Et ceci pour maintenir une revue. Parce que la revue faisait qu'on recevait ses livres gratuitement. Et on les payait cher, puisqu'on devait en faire la recension. Et on devait faire la recension rapidement. Alors, la recension était peut-être très intelligente, mais c'était rare qu'on entre vraiment dans l'intention de celui qui avait écrit ça. Et qui avait eu plusieurs années. Alors vous voyez, cette chose terrible du monde moderne, c'est comme ça. Hein. Et je prends cet exemple parce que je l'ai vécu. Et chaque fois, j'étais dans un sentiment de malaise, d'injustice, de juger le bouquin d'un livre qui représente 4 années ou 3 années de travail, ou 2 ans de travail, ou 1 an de travail. Le juger en le lisant pendant quelques heures, quoi. Alors, le jugement de sagesse sur mon intelligence me permet de découvrir que mon intelligence est faite pour Dieu, elle est sacrée. Parce qu'elle est sacrée, je n'ai pas le droit de l'encombrer. Je dois maintenir la voie qui va vers Dieu et qui me permet d'atteindre Dieu comme une voie sacrée. Les Romains avaient des voies sacrées. Hein. Spirituellement, il y a des voies sacrées. La voie sacrée, c'est la métaphysique. Humainement parlant, il y a une voie beaucoup plus sacrée, elle est divine celle-là, c'est la foi. La foi est divine et l'intelligence est sacrée. Mon intelligence n'est pas divine. L'intelligence de Dieu est substantielle et je n'ai moi qu'une intelligence participée. Si mon intelligence est participée, elle n'est pas substantielle, elle est relative. Elle n'a pas une autonomie parfaite. Et on voudrait bien que l'intelligence ait son autonomie parfaite. Mais dans le jugement de sagesse, je suis obligé de constater que mon intelligence est participée à l'intelligence divine et que seule l'intelligence de Dieu est substantielle. Je vois tout de suite la grande erreur de l'ontologisme, de considérer que l'intelligence humaine est substantielle. C'est l'erreur de Platon et de tous les néoplatonismes qui se traduisent ordinairement par justement cet ontologisme où on veut que l'intelligence ne soit pas un accident. Au point de vue de l'être, elle est un accident. Au point de vue de la vie, elle est un principe. Mais je distingue être et vie. Tandis que si je dis que mon intelligence est substantielle, je dis que ma vie est s'identifie à l'être. Parce que substantielle, ça veut dire qu'elle est principe de son être. Mon intelligence n'est pas principe de son être. Elle est participée. Elle est dépendante de Dieu, au point de vue de l'être. Et mon intelligence, qui pour ma vie est capitale, mon intelligence se développant permet d'avoir une vie qui s'organise dans cette recherche de la vérité. Cette recherche de la vérité est capitale pour moi, pour mon développement. Mais cette recherche de la vérité n'est pas substantielle. Je sais très bien qu'il y a une différence de mon être substantiel qui doit respecter certaines lois au point de vue de l'être, de sa santé, et puis ma vie intellectuelle. Ma vie intellectuelle fait partie de ma vie humaine. La partie principale, la partie première, la partie fondamentale, mais ce n'est qu'un élément. Je ne peux pas identifier ma personne à mon intelligence. Identifier ma personne à mon intelligence, ce serait de l'ontologisme, ce serait du néoplatonisme. Pour Platon, l'intelligence est substantielle. Je crois ça très important de découvrir que l'intelligence humaine, mon intelligence, est participation à l'intelligence divine. Vous voyez, dans un jugement de sagesse, je peux dire ça. Donc, si mon intelligence participe à l'intelligence de Dieu, elle reste bien intelligence. Mais elle a une modalité spéciale de l'intelligence. Et cette modalité est diverse. Je sais très bien que le développement de mon intelligence peut se faire très différemment. Je peux être un excellent mathématicien. Je peux être un excellent scientifique et nul au point de vue philosophique. Je peux être un excellent philosophe et nul du côté mathématique. Je peux avoir une intelligence développée au point de vue pratique, au point de vue artistique. L'artiste est un homme intelligent. On reconnaît tout de suite un vrai, véritable artiste parce qu'il est intelligent. Mais il est intelligent dans son facere. Il est intelligent pour son agere, pour sa prudence. Donc, vous avez des formes diverses d'intelligence. Et plus on avance, plus on voit les spécialisations de l'intelligence. Et qu'on voit qu'il faut spécialiser très vite un gosse qui grandit pour qu'il devienne un génie mathématique. Il faut le spécialiser très vite. Les études qu'on faisait classiques avant retardaient le développement mathématique. Et on commençait à faire des mathématiques à 17, 18 ans. Alors que si on commençait à 13 ans, 12 ans, le développement serait bien mieux. Mais il serait partiel, ce ne serait plus la sagesse. Dans mon jugement de sagesse, je vois que mon intelligence demande, pour être le plus parfaite, d'atteindre la sagesse. Elle est faite pour cela, parce qu'elle est participée de l'intelligence de Dieu. Vous voyez, c'est important cela, de découvrir vraiment au plan philosophique comment l'intelligence est faite pour la sagesse. Tant que mon intelligence n'a pas découvert la sagesse, mon intelligence reste infantile. Le mathématicien peut être un très bon mathématicien, mais son intelligence est infantile, parce qu'elle n'atteint pas la sagesse. Elle croit atteindre la sagesse par la cause formelle, exemplaire, mais elle ne l'atteint pas. Donc, elle n'atteint pas sa source. Et tant qu'elle n'atteint pas sa source, elle est un orphelin. Et un orphelin est toujours un peu infantile. Tant qu'il reste orphelin, il cherche sa source. Il cherche d'où il vient. Et il essaie de saisir ça. Alors, vous voyez, cette vision de sagesse sur mon intelligence, de découvrir que mon intelligence demeure une intelligence faite pour connaître Dieu, et par là, elle est sacrée, et que mon mode intellectuel, ma manière d'être intelligence, c'est d'être humain. Une intelligence qui se développe de façon diverse, en mathématiques, en sciences, en art, en prudence. Elle se développe différemment. Je vois qu'il n'y a pas qu'une seule manière d'être intelligent. Mais mon intelligence, pour atteindre la sagesse, doit atteindre Dieu. Or, je ne peux pas atteindre Dieu par les mathématiques, par la science. Il n'y a que la métaphysique de l'être qui me permet d'atteindre Dieu. Je comprends alors, dans un jugement de sagesse, l'importance du développement de mon intelligence du côté métaphysique. Puisque la seule voie pour découvrir l'existence de Dieu, ma seule voie, mon seul chemin, c'est la métaphysique. Il n'y a pas d'autre voie. Et cette voie métaphysique est analogique. Donc, il ne faut pas dire qu'elle est systématique. Non, elle est métaphysique. Elle respecte la diversité. Elle respecte toutes les manières différentes dont on peut atteindre Dieu dans l'ordre de la disposition. Mais en définitive, je ne peux atteindre l'existence de Dieu qu'en ayant découvert Dieu créateur par l'être. Dieu crée des êtres. Dieu ne crée pas la vie. Puisque la vie, c'est se mouvoir soi-même. Alors, vous ne pouvez pas dire que Dieu l'a créé. Il crée des êtres vivants. Oui, là, je vois pourquoi je dois dire cela. Et je peux, par mon intelligence, le découvrir. Et je dois le découvrir. Parce que si je ne le découvre pas, tôt ou tard, mon intelligence sera en contradiction avec la foi. La foi me donne une vie éternelle. La foi ne me donne aucun nouveau concept. La foi me donne un nouveau jugement et un nouvel amour. Mais la foi ne me donne pas un nouveau langage. Je n'ai pas un langage de croyant et un langage de philosophe. C'est pour ça qu'il n'y a pas de philosophie chrétienne. Dire qu'il y a une philosophie chrétienne, c'est prétendre que la foi me rend intelligent. Je fais cette expérience tous les jours, que je vois beaucoup de croyants qui ne sont pas très intelligents. Ne soyons pas de ceux-là, parce que ce n'est pas apologétique. On reconnaît ses limites. On reconnaît ses limites. Ne jouons pas aux savants quand on n'est pas savant. Ne jouons pas aux mathématiciens quand on n'est pas mathématicien. Ne jouons pas à l'artiste quand on n'est pas artiste. Ne jouons pas à l'homme prudent quand on n'est pas prudent. Mais l'homme intelligent connaît ses limites. Et il sait que son intelligence est limitée. Et qu'il y a quelque chose dans mon intelligence qui peut se développer et qui peut aller jusqu'à la découverte de Dieu. Vous voyez, le jugement de sagesse qui se fait à partir du Créateur, à partir du Dieu Créateur, me permet de saisir avec beaucoup de netteté ce que c'est qu'un être intelligent, une intelligence participée. Donc, une intelligence participée demeure intelligente, mais elle a des limites. Et ces limites, je peux les utiliser. Ces limites ne m'arrêtent pas. Je peux les utiliser, je peux les contourner, parce que je peux demander conseil. Si je ne suis pas fort en métaphysique, je demande de m'éclairer. Si je ne suis pas fort en mathématiques et qu'il y a un problème mathématique de science, je demande à un mathématicien de m'éclairer. La grande intelligence pratique, c'est de se servir de ses limites et de ne pas pleurer sur ses limites. Je suis bête. Non. Il faut se dire que tous, on est intelligent, mais on a des formes d'intelligence différentes. Et on doit arriver à discerner sa forme d'intelligence. La philosophie est faite pour ça. Et le jugement de sagesse sur l'intelligence me montre que c'est absolument nécessaire pour avancer. Celui qui ne voit pas suffisamment cette diversité d'être intelligent ne comprend pas que son intelligence y participait. Elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu directement. Dieu seul peut créer des êtres intelligents. Ce n'est pas mes parents qui peuvent créer un être intelligent. Dieu seul peut créer un être intelligent. La création là est obligatoire. Et on comprend. Parce que être intelligent, c'est devenir cause seconde. C'est être autonome. D'avoir une autonomie dans un certain domaine. Un artiste est autonome dans son art. Ce que je vous ai raconté, cette histoire, était tellement significatif. Un artiste d'un art tout à fait artisanal, artiste, pour mettre des fers aux chevaux. Et j'étais avec quelqu'un, un étudiant de Paris, et on visitait cela. Et il se mettait à le critiquer. Car il a été piqué au vif, cet homme qui faisait son métier. Il m'a dit: Monsieur, votre critique sera valable quand vous aurez, vous, pris ma place et mis ses fers à chevaux mieux. C'est très vrai. Je ne peux critiquer l'artiste que si je suis capable de faire mieux que lui. Autrement, je ne peux pas. Je peux essayer de comprendre son art et dire cet art, hein, oui. Et le comparer à d'autres. Mais je ne peux pas critiquer de l'extérieur l'intelligence pratique. Je peux la critiquer que de l'intérieur. Oui, être intelligent limite la critique. Je ne peux critiquer que quelqu'un dont je suis capable de faire mieux que lui. Autrement, je n'ai pas le droit de le critiquer. Et ce maréchal Ferrand avait tout à fait raison. Il a présenté son marteau, il a présenté les clous, il a dit, allez-y. Vous comprenez que l'étudiant était penaud, hein. Et le marteau, le cheval, la face, il se trompait. Le pied, le peur de la ruade, il fallait être suffisamment astucieux pour mettre le fer à cheval bien. Mais ça m'a beaucoup appris, ça. Parce que je dis, c'est vrai. On fait une critique, on doit être capable de faire mieux. Autrement, on ne peut pas. C'est la vision de sagesse sur mon intelligence est capitale. Regarder son intelligence dans la lumière du Créateur qui a créé mon intelligence, qui a créé mon être intelligent. Et mon intelligence participe à Dieu, participe à l'intelligence de Dieu. Vous voyez la différence entre la causalité et la participation. Je dis, mon intelligence participe à l'intelligence de Dieu. Et je dis, Dieu crée des êtres intelligents. Réfléchissez sur ces deux formules. Vous verrez tout de suite la différence. La causalité porte sur l'être, sur le devenir ou l'être. La participation porte sur la forme, sur la nature. Sauf que on peut dire mon intelligence participe à l'intelligence divine. Je peux dire la même chose pour l'amour, de façon encore plus nette. Ma volonté est sacrée. Je n'ai pas le droit d'en faire n'importe quoi. Venez ici. La responsabilité que nous avons quand on, dans ce jugement de sagesse sur la personne humaine, je vois que ma volonté est capable d'aimer Dieu. J'ai capable d'avoir un désir de voir Dieu, de connaître Dieu. Le désir naturel de connaître Dieu. Elle a donc quelque chose de sacré. Et c'est pour ça que je n'ai pas le droit de mettre mon absolu dans l'ordre de l'amour en dehors de Dieu. Ma volonté peut aller plus loin. Et je peux, dans un jugement de sagesse, comprendre les limites de mon amour et en même temps la force particulière de l'amour qui peut aller jusqu'à Dieu. Avoir le désir de voir Dieu, le désir de connaître Dieu, montre qu'il y a en moi non seulement cette intelligence qui est sacrée, mais aussi mon amour, ma capacité d'aimer. Et donc, je vois tout de suite que l'amour à l'égard du prochain, au plan philosophique, je ne parle pas de la charité surnaturelle, hein. C'est la grosse différence entre l'amour humain et la charité surnaturelle. La charité surnaturelle est un absolu. On peut mourir pour son frère. Mais au point de vue humain, l'amour d'amitié n'est pas un absolu. C'est un moment très important, une certaine finalité de toute ma vie morale, de mon espérance, de ma prudence. C'est une certaine finalité, un certain moment de repos. Je peux me reposer sur mon ami, humainement. Mais je ne peux pas m'arrêter et trouver en lui la fin. Mon intelligence, ma volonté ne sera jamais satisfaite dans l'amour humain. Ma volonté restera toujours haletante, désireuse d'aller plus loin. Et alors, si elle cherche d'aller plus loin en aimant Dieu, elle sera pacifiée. Mais si elle ne cherche pas Dieu, elle sera tyrannique. C'est là la naissance du tyran. Hein. Et c'est très important de comprendre ça. Parce que ma volonté a en elle un sens de l'absolu. L'amour, l'amour humain, spirituel, peut et doit être un amour divin. Doit devenir un amour divin. Lui qui est absolu. Et si cet amour divin n'est pas découvert, je me rabats sur les hommes et j'ai à leur égard un amour absolu qui étouffe, qui est tyrannique, qui n'est pas suffisamment libre, relativisé par l'amour absolu qui est un amour pour Dieu. Vous voyez, il y a la même constatation dans un jugement de sagesse à l'égard de l'intelligence et à l'égard de l'amour. Si mon intelligence ne découvre pas Dieu, mon intelligence voudra trouver l'absolu en dehors de Dieu, dans une causalité exemplaire. Et je ferai d'une causalité exemplaire un absolu. Exactement comme dans le point de vue de l'amour. Si je découvre la possibilité d'aimer Dieu, ma volonté peut trouver son bien absolu et se reposer en Dieu. Si elle ne peut pas le découvrir, elle essaiera de découvrir dans l'homme un absolu qui n'existe pas. Et par le fait même, elle deviendra tyrannique. Parce qu'elle mettra l'absolu là où il n'est pas.